Qui n'a pas de boussole?
Elliot.
Alors équipe de choc numéro 1, Michel, Nicolas, Iris, Elliot.
Laetitia Prou, moi je suis responsable technique de la station de Paracou pour le CIRAD, responsable de l'inventaire des nourags, l'inventaire forestier des nourags.
Équipe de super choc numéro 4.
Comme par hasard, mais super choc.
Didier, Olan, Thomas, Laetitia. Quelle équipe n'a pas de bidule? Chaque équipe a un toki là.
On est sur la station des nourags au camp Inselberg, donc en plein cœur de la forêt guyanaise. C'est une station scientifique où il y a plusieurs carbets d'accueil où on peut dormir en hamac. On est arrivé par hélicoptère et hébergé par le CNRS.
Allez, c'est parti.
On les appelle les ninjas de la forêt, t'as intérêt de...
Les sakis de la forêt.
T'as intérêt de coller au bas de l'hélicoptère.
En quoi ça consiste exactement? En inventaire botanique.
C'est un inventaire qui se fait depuis plus de 30 ans ici au Nourag. Un inventaire qui se fait tous les 5 ans. Donc les arbres, la plupart des arbres sont déjà numérotés, géolocalisés, déterminés à l'espèce. Donc nous, on va vérifier leur croissance, on va donc les mesurer. L'inventaire des nourags, avec les 28 hectares qu'on a inventoriés, ça représente à peu près 18 000 arbres à vérifier, et plus tous les nouveaux qu'on ajoute. On fait 3 ou 4 équipes de 4, qui font 1 hectare chacune, et qui ont à peu près 500 arbres, 500 et quelques arbres, dans la journée ou plus, selon les difficultés du terrain.
Oh waouh, trop fort!
Tu peux me dire ce qui se passe là?
Alors ce qui se passe, c'est que je suis au milieu d'un nuage de temps, parce que j'ai eu le malheur de m'habiller en violet, et que le bleu et le violet, visiblement, ça attire les temps. Du coup, évitez ces couleurs sur le terrain. Et en plus, ça en fout de l'anti-moustique.
Laetitia, on peut y aller, nous
Si vous êtes prêts, oui. Oui.
La forêt est très, très dense. Il y a beaucoup de lianes, pas mal de petites choses avec des piquants qu'il faut traverser, sachant qu'ici, on est en réserve naturelle, donc on a le droit de rien couper. Donc on doit se faufiler à travers les lianes, on doit passer à côté des palmiers à épines sans couper une palme, donc en risquant de prendre des épines dans les bras ou dans les jambes. Et puis oui, le terrain peut être très accidenté, très pentu. La progression est très lente et assez difficile.
T'es libre, Laetitia? 84.1. Mesure 42,5. Pomme normale.
On prend la circonférence de l'arbre avec un mètre ruban. On va indiquer si l'arbre est toujours vivant ou bien s'il est mort. Donc on va noter toutes ces données-là.
137, confirmé, mort, couché.
Et puis surtout, on va recruter des nouveaux arbres, puisqu'on ne prend que les arbres à partir d'un certain diamètre. Tous les nouveaux qui auront atteint le diamètre de 10 cm.
Là, il va être recruté par exemple. Là, il correspond à peu près à la largeur, moins la circonférence.
Laetitia, j'ai une recrue. Alors, arbre de référence, 92.2. En X, il est à moins 2 mètres. En Y, il est devant à 2,50 mètres. La mesure de la circonférence, 33 cm. Le pomme, 130. Identification de l'arbre, inconnu.
Ok, ça sera le numéro 527.
527, merci.
Là, je lui mets sa plaque avec son numéro de référence maintenant.
Et donc, c'est un nouvel arbre qui rentre dans l'inventaire.
Voilà. On suivra sa croissance la prochaine fois qu'on viendra ici. C'est dans 5 ans. 527. C'est émouvant, oui, parce que ça fait des arbres en plus. Et on sent que la forêt vit, quoi. C'est surtout ça, on sent qu'il y a à chaque fois des nouveaux qui reviennent, prennent la place de ceux qui tombent. Okay. On est bon pour lui.
On attribue un numéro à chaque arbre. Les nouveaux, on les géolocalise par rapport à des arbres voisins qui sont déjà numérotés et déjà géolocalisés, en plaçant des X et Y par rapport à un arbre voisin déjà connu. On essaye dans la mesure du possible de donner un nom vernaculaire quand on connaît l'arbre. parce qu'il faut vraiment une connaissance très particulière. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'espèces énormes d'arbres dans la forêt. On n'est pas tous botanistes, loin de là. Dans l'équipe du CIRAD, on a des très très bons botanistes qui vont au moins identifier au nom vernaculaire. Non seulement il faut avoir la connaissance des espèces à la base, et puis il faut savoir qu'en forêt tropicale, pour identifier un arbre, souvent on se réfère à ses feuilles, et que quand on est au pied d'un arbre, en fait on ne voit pas ses feuilles parce que c'est des très grands troncs qui partent, et puis il y a d'autres houppiers qui vont nous cacher la vue, on va pouvoir confondre les feuilles du voisin avec celui dont on veut l'identification, donc c'est très compliqué en fait.
Qu'est-ce que vous faites là ?
Alors, je suis en train d'enlever les lianes qui poussent sur le tronc de l'arbre afin de dégager, prendre la bonne mesure pour qu'elle soit exacte. Quoi.
Et là, le numéro de l'arbre, on ne le voit pas encore sur l'étiquette, il y a de la mousse dessus ?
Exactement, il y a de la mousse, hein, puisqu'on revient sur les parcelles tous les 5 ans, ben, la nature reprend ses droits vite fait. Donc il faut voir si ça reste toujours visible sur les plaquettes, le numéro des arbres écrit. Si ce n'est pas le cas, on les refait, on les réécrit au crayon papier.
143, mesure 54,5, pomme normale.
On prend la mesure à partir de 1,30 m de hauteur. Mais parfois, les arbres en forêt guyanaise ont des contreforts, ont des déformations, des grosses termitières, etc., qui ne nous permettent pas de prendre la mesure 1,30 m. Donc, on va surélever ce trait de mesure. Et donc là, ça nécessite de prendre une échelle pour pouvoir mesurer l'arbre là où il est rond. On a une équipe qui est spécialement dédiée aux arbres à échelle. On appelle ça des arbres à échelle. Et donc, ça veut dire qu'on part en forêt avec des échelles. Donc déjà, sans échelle, c'est difficile. Avec échelle, c'est très difficile. C'est des échelles qui font 3 mètres, 3 mètres 50 ou 4 mètres. Se déplacer avec une échelle, c'est très, très difficile. C'est lourd et puis on se cogne partout. Ceux qui font ça ont beaucoup de mérite.
Allô, allô, équipe 1. On va pas utiliser notre échelle, donc vous pouvez prendre la nôtre. Elle est à la parcelle 15, hein, c'est ça ?
Attends, je suis sur Roland. Ouais. 303,3, donne-moi la mesure. Il est pas mort ?
Non.
Ah, c'est pas bon. T'as pas une virgule ?
Non.
Parce que le 303, il faisait 162.
Quand les inventaires ont commencé, ça se faisait sur papier. Ensuite, il y a eu des petits ordinateurs de terrain qui sont apparus. Et puis aujourd'hui, depuis 2 ans à peu près, on travaille sur des tablettes. On sait que c'est important que les mesures soient le plus précises possible parce que les données ensuite sont utilisées par les chercheurs. Et quelques centimètres de plus ou de moins peuvent changer beaucoup de choses pour les gens qui vont faire des études à partir des données. On a tous en tête qu'on doit prendre le temps de prendre des données le plus conforme possible.
Patrick pour Laetitia.
Je m'appelle Stéphane Tressac. Moi, je suis membre d'AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs en agronomie et en foresterie. Et donc, je dirige le centre courroucien d'AgroParisTech. Et j'ai une deuxième casquette qui est directeur de l'UMR Ecofog, qui est une UMR en écologie. Donc Ecofog, ça veut dire écologie des forêts de Guyane. Donc il y a des gens de l'INRAE, du CIRAD, du CNRS, Université des Antilles, Université de Guyane et donc AgroParisTech. Donc c'est l'inventaire dit Guyafor. Cette base donnée Guyafor est une base donnée unique au monde de par sa taille, de par son ancienneté, qui permet de comprendre ce qui se passe en forêt tropicale. Alors Guyafor en plus a la particularité d'avoir des placettes qui sont comme ici complètement en forêt naturelle, mais aussi des placettes qui ont été exploitées. Et donc on regarde la réponse à la perturbation anthropique de l'exploitation forestière de la forêt. L'idée c'est de suivre un petit peu leur croissance, de pouvoir faire des calculs notamment de biomasse. Et l'idée c'est d'avoir un gradient à la fois de pluviométrie et puis aussi d'avoir un certain nombre de différents types de forêts qui sont sur différents types de géologie ou de géomorphologie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est d'avoir un panel représentatif des différents types de forêts qu'on peut avoir ou des habitats forestiers qu'on peut dire en Guyane, enfin en tout cas sur le nord de la Guyane.
Pourquoi est-ce que c'est important de faire cet inventaire de manière aussi précise ?
C'est important d'avoir des données fines et sur des parcelles qui sont grandes et qui sont répétées, parce qu'en fait, le temps forestier est un temps long. Ça permet de voir l'évolution de notre forêt qui évolue donc lentement. Et donc on va la regarder en lien avec actuellement beaucoup les changements climatiques et l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Mais pas que, en fait, il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur la forêt. Tout à l'heure, je suis allé me promener en haut de cette magnifique colline où on a vu en fait des parcelles que je connaissais il y a 10 ans avec énormément d'arbres qui sont tombés. Donc on appelle ça un chablis dans notre jargon. Ça va être un apport de lumière très important. Et donc rien que sur ce phénomène-là, l'occurrence des chablis, donc un arbre qui tombe, qui amène de la lumière, ça va permettre à tout un tas d'arbres de se régénérer. On ne connaît pas encore tous les déterminismes. Pourquoi en fait on a des tendues de chablis comme ça qui se propagent un petit peu.
145,1. Mesure 41,5.
Une des applications des mesures qu'on fait ici au Nourag, c'est de comprendre comment les forêts tropicales ont le rôle de puits de carbone. C'est-à-dire que l'Amazonie était à l'équilibre avant l'industrialisation, avant qu'on augmente le CO2 dans l'atmosphère. D'après les données qu'on a, on a un stockage de 1 à 2 tonnes de carbone par hectare et par an depuis les années 80. Il y a quelques articles qui ont commencé à sortir en 2015 qui montrent que ce stockage est en train de ralentir. Voilà, donc il y a tout un tas de questions qu'on se pose. Nos forêts tropicales représentent un puits de carbone, mais ce puits de carbone commence à un peu moins bien fonctionner. Voilà, mais il fonctionne encore.
On a quasiment fini une première bande très large du carré, qui fait quasiment la moitié du carré. Là, on a dû faire quasiment 200 arbres.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah oui, il est 10h25. On a commencé en retard.
Ça jure l'heure.
Ils sont loin, hein.
C'est quoi qu'on entend, Didier, là?
Ça jure l'heure. Ici, en vermiculaire, c'est baboune, hein, on les appelle. Les singes jure l'heure. Ce sont des singes de couleur brune, enfin, c'est ça, marron, hein. Roux. Rouquin. Ouais. Et ils ont un cri qui porte très, très, très loin. Impressionnant pour la taille de l'animal, quoi. On les entend à combien de kilomètres? Plus de 3 km, 4
km,
4,
5, 5
3
km.
3 km.
À peu près. Et là, il y a les tamarins, ouais. Les petits singes tamarins à main dorée. Les petits singes qui ont les mains oranges, qui sont tout noirs, avec une tête bizarre, un peu de gremlins. Et ils sifflent très aigu, là.
Là.
Ouais,
tu l'as vu, Olin? La queue, il a relevé sa queue. Voilà, là, il se gratte. Regarde, il est descendu là. Il te regarde, il est sur la liane, tu le vois pas? Derrière la branche, le petit singe, il nous regarde.
C'est quoi comme type de singe, ça?
Alors, c'est le tamarin. C'est le petit tamarin, là. Voilà, il est en train de crier, là. Il est curieux, il nous regarde bien. Mais c'est qui, ces gens-là? Hey, ils sont fâchés, là.
Ils nous disent bonjour.
Ouais, ouais, ils sont tous autour de nous, là.
Petits curieux.
Ouais, ils sont curieux.
Et ouais, les singes araignées, là, les quattas, ils sont souvent un peu énervés. Ils sont très curieux, donc souvent, ils viennent voir quand il y a des humains qui sont dans la forêt, là. Mais ils aiment pas trop qu'on soit là, quand même. Et du coup, ils se mettent à crier et ils secouent les branches mortes qui sont autour de nous et ils font tomber les branches mortes. Et ils descendent comme ça, ils nous regardent et ils font tomber les branches mortes. Donc c'est dangereux, faut faire gaffe quand ils commencent à s'énerver. À pas prendre une branche morte, parce que c'est des grosses branches qui peuvent faire tomber.
Donc ça peut être un peu dangereux, l'inventaire, en fait.
Ouais, bah la forêt, de manière générale, peut être un petit peu dangereuse si on ne fait pas attention. Ouais. Ah, je vois au-dessus, là.
Le grand danger, c'est les chablis, les chutes d'arbres.
Ouais.
Après, c'est tout ce qui est morsures de serpents, guêpes, petits insectes, quoi.
C'est surtout, ouais, guêpes.
Chablis, hein. Ouais, c'est ça. Chablis.
Des fois, t'as des gros chablis, ça fait des dominos. Hein. Donc, il y a toute une partie de la forêt qui tombe et ça fait un bruit énorme. Hein. T'as même le sol qui tremble. Hein.
Et ça ressemble à quoi comme bruit?
Un gros coup de tonnerre.
Ouais, un gros coup de tonnerre, un bourdonnement. Et tout qui retombe. Comme ça. Et puis bien sûr, le fait de se perdre un petit peu.
Oui, beaucoup, ouais.
Ouais, ça c'est... C'est très facile de se perdre.
Ils sont bien contents là.
On peut tomber aussi sur des bandes de cochons, des cochons bois.
Et c'est gros.
C'est un petit sanglier.
Tu commences à claquer des dents. C'est qu'ils sont pas contents.
Ouais. Ils aboient et après ils claquent des dents très fort. Clac, 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 clac. Et là, quand il y a 50 cochons qui claquent des dents, tu cherches un arbre où tu peux grimper.
Tu attends. Et avant de les voir, ben, on prend l'odeur. L'odeur du cochon bois.
Ça sent quoi?
Ah ben, ça sent une sorte de, je sais pas, de la vase, de la boue, de la transpiration, je sais pas, l'urine.
Ils ont une glande
ouais.
Derrière le, enfin, sur le dos, au niveau des fesses, quoi. Qui, ils émettent des phéromones, j'imagine. Ça sent très très fort.
Il y a des papillons aussi. J'ai vu des morphos.
Ouais, il y en a un qui est passé là, juste là. Beaucoup de papillons, ouais. L'acuité visuelle et auditive se développe au fur et à mesure des jours et on est super attentif qu'on n'est pas autant en ville. Parce que justement, il y a tellement de bruit, les oiseaux, les singes, on essaye de reconnaître les espèces, de détecter les dangers. Donc on est super attentif. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on est fatigué le soir en plus. Parce que la journée, tout le monde est super attentif à ne pas se faire mal, à voir tout ce qu'on peut voir, les belles choses, etc. Et puis, ouais, il y a l'esprit de la forêt qui nous gagne. Mm-hmm. Ouais.
On est hors du temps. J'arrive à mieux penser. À des moments de silence et tout, ben, c'est la nature qu'on entend et elle n'est pas silencieuse, quoi, finalement. Elle nous parle. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'elle dit ?
Elle nous dit qu'on est tout petit et qu'on a besoin d'elle. La forêt, c'est notre habitat, hein. C'est ça, hein. Elle doit le rester en réalité.